Bien avant le perspicace Rabelais, les vrais penseurs ont enseigné que la science ressemble assez à la langue des hommes, tantôt bonne, tantôt mauvaise, suivant l'usage qu'on en fait. De nos jours, les drames provoqués par l'emploi quotidien de denrées troublesversées par l'industrie confirment cruellement que les chercheurs ou les marchands sans conscience sont des ennemis de l'humanité, pires que les plus mauvais microbes. Heureusement pour nous, des sages contrebalancent leurs méfaits et retrouvent ou découvrent les moyens d'assurer la fertilité de notre planète. Eux seuls leur offrent les moyens actuels et vraiment efficaces de résister aux agressions des folies industrielles, agricoles, médicales et commerciales, et de revivre.
Le cep de vigne, c'est bon papa, grand-papa Noé. Pour saluer ce vieillard très digne, il faut en cœur boire à sa santé.
Vidons la bouteille, buvons un verre, rien qu'un verre, mais du bon vin. Le jus de la treille, on le préfère, dans un verre, ça fait du bien.
Lorsque Noé quitta son refuge, il a juré de ne plus boire de l'eau. Il s'écria, après nous le déluge, on m'a assez mené en bateau.
Vidons la bouteille, buvons un verre, rien qu'un verre, mais du bon vin. Le jus de la treille, on le préfère, dans un verre, ça fait du bien.
Lorsque Moïse a vu la mer rouge, il dit enfin fini ma pépite. Il fut déçu car tout ce gros rouge n'était au fond que de l'eau rougie.
Vidons la bouteille, buvons un verre, rien qu'un verre, mais du bon vin. Le jus de la treille, on le préfère, dans un verre, ça fait du bien.
Mais on n'est plus au temps de Moïse, à tout jamais fini l'eau rougie. Car aujourd'hui, même en temps de crise, pour quelques francs, allons mes amis.
Vidons les bouteilles, buvons nos verres, de grands verres, plein de bon vin. Vidons la bouteille, car sur la terre, tout s'éclaire grâce au bon vin. Vidons les bouteilles, buvons nos verres, de grands verres, plein de bon vin.
Oui, In Vino Poiesis et Veritas, donc une coproduction Opération Kangourou et les périphériques vous parlent pour une émission, on en est à la sixième édition, consacrée à toute cette culture émergente de la biodynamie, plus particulièrement dans le domaine de la vinification et de la viticulture.
Enfin, plus généralement sur le vin vivant, dirons-nous.
Tout à fait, les vins vivants, puisque le vin bio est une expression un petit peu imprécise, et que le vin vivant correspond davantage à cette redécouverte de terroirs, cette recréation de terroirs, et toutes ces initiatives qui sont le fait aujourd'hui de vignerons qui, selon leurs termes, veulent travailler de nouveau, produire du vin sans tricher, sans recourir aux produits chimiques, sans traiter leurs vignes avec toutes sortes d'intrants, de pesticides, et produire finalement des vins qui retrouvent cette espèce de franchise du fruit, voire de l'eau de source. Donc, avec Julien...
Voilà, donc spécifiquement aujourd'hui sur la biodynamie, là, pour le coup. Et en Champagne, avec, à ma connaissance, la maison, c'est sûr pour la maison, pour les vignerons, j'en suis pas sûr, mais je crois aussi. En tout cas, les vignerons, en tout cas, la maison de Champagne en biodynamie la plus ancienne, c'est-à-dire qui est en biodynamie depuis le plus longtemps, qui sont les champagnes de la maison Fleury. On a eu un léger problème de numérisation, Donc, c'est un entretien qui n'est pas monté. Donc, c'est un entretien, comme on dit en Champagne, extra brut.
Extra brut. On l'écoute maintenant ou...
Ou on en parle un peu avant, ouais, comme tu veux.
On en parle un petit peu avant. Disons qu'on a rencontré donc Morgan Fleury, qui a ouvert une boutique, un bar à champagne. Donc, les champagnes Fleury, d'ailleurs, où il y a d'autres vins, d'ailleurs. Il y a d'autres non, il n'y a que du champagne Fleury, mais il y a d'autres vins à découvrir. Donc, c'est au 177 rue Saint-Denis, dans le 3e arrondissement. Une boutique fort sympathique. Et à cette occasion, on a été...
On était bien reçus.
On a été très bien reçus. Donc, on a été à la fois parler du travail des champagnes fleuries, faire état aussi de ce qu'il en était de la biodynamie dans un champenois qui a été quand même la proie de toutes sortes de dérives productivistes par rapport à la manière de concevoir le champagne et d'en fabriquer. Et puis, à cette occasion, nous avons pu goûter les champagnes fleuries. Donc, il s'agit d'un entretien pimenté, émaillé de dégustations diverses et où, en même temps, on fait une analyse gustative et puis on parle du travail de la méthode champenoise. Voilà, puisque Julien, toi, tu es originaire de la Champagne, donc tu avais un avantage sur moi pour cet entretien.
Oui, c'est parce que toi, tu as non seulement découvert les champagnes fleuries, mais les champagnes tout court.
J'avoue que j'avais du mal, je me confie à Morgane, et j'avais du mal avec les champagnes, ayant tellement bu de mauvais champagne, notamment dans ces cocktails dont nous assomme la vie mondaine parisienne. Donc voilà, donc là, c'est quand même une redécouverte hein, avec les champagnes fleuries, et puis aussi d'autres champagnes dont tu as évoqué le nom.
Oui, je crois qu'on en parlera, c'est-à-dire des gens comme Célos ou Le Clapard, des gens comme ça.
Tout à fait, on lance.
On lance Morgan Fleury.
Ah, bonsoir Morgan. Les caves Fleury, donc des champagnes Fleury, qui ouvrent une officine à Paris.
Exactement.
Voilà.
Et pas dans un lieu anodin, puisque c'est rue Saint-Denis.
C'est rue Saint-Denis.
Où c'est le cœur historique de la capitale, puisque c'était un des premiers accès à l'époque des Romains qui accédaient à la Seine avec la rue de la Porte-Saint-Martin. Donc, au-delà de l'histoire... que l'on connaît plus qu'à l'histoire des filles qui ont beaucoup travaillé et officié dans ce quartier, il y a quand même encore un passé bien plus ancien.
Tout à fait, avec des créatures fleuries, voilà. Donc les caves fleuries, c'est au 177 rue Saint-Denis. Donc l'ouverture est très récente puisque l'inauguration était en février. Et donc Morgane, c'est une entreprise, les champagnes fleuries, c'est une entreprise familiale, donc très ancienne, puisque tu es, je crois savoir, l'arrière-petite-fille du fondateur, du créateur des champagnes fleuries, c'est bien ça?
Tout à fait, puisque c'est un domaine qui existe depuis 1895, donc je suis la quatrième génération d'un domaine familial, avec un petit peu une histoire de pionnier en plus, puisque bon, c'est vrai que je suis une des premières caves, c'est notre première... installation sur Paris, mais mon père est un pionnier dans la biodynamie. Mon grand-père était, lui, un des premiers à champagniser dans l'Aube en 1929. Et mon arrière-grand-père était le premier à implanter les plants greffés pépiniéristes juste après l'invasion du phylloxéra dans l'Aube.
D'accord. Ce qui est très curieux, c'est que ce qui vient à l'esprit, si on se dit, bon, effectivement, la biodynamie à une époque aussi reculée, ça veut de quoi surprendre, puisque... on s'imagine qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore eu sur tous les intrants, toute l'utilisation des pesticides que l'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, déjà, on parlait de biodynamie à l'époque.
On parlait, on n'en parlait pas trop. Hein. C'était quand même très discret, très marginal. Par contre, je pense que mon père, quand il est tombé un petit peu sur les écrits de Rudolf Steiner, donc c'est lui qui initie tout ça, ça lui a fait tilt dans sa tête parce qu'il avait un rêve d'enfant, c'était d'être astronome. Mon grand-père, l'ayant arraché de l'école à 14 ans, il a pas mal souffert de ça. Et quand il a découvert la biodynamie, il s'est dit, voilà, comment avec les vignes, je vais pouvoir mettre en adéquation une passion d'enfant que je n'ai jamais pu réaliser et donc mettre les astres un petit peu dans la terre. Enfin, je résume comme ça de façon imagée, quoi.
D'accord. Rudolf Steiner, on en a beaucoup parlé, justement.
Alors, donc, c'est vrai que ouais. Ça a fait ici l'arrivée de la cave Fleury. C'est aussi, on va dire, pour fêter les 20 ans de biodynamie, puisque c'est depuis 89. Que mon père donc travaille ses sols et voilà, s'essaye à la biodynamie avec une perpétuelle recherche, j'ai envie de dire.
Je vais faire pause. Morgane, revenons donc sur la situation du domaine Fleury. hein, en Champagne. Alors, il y a des zones géographiques très précises. Hein, il y a des polémiques hein, aussi. Il y a beaucoup de...
Il n'y a pas de polémique, en fait. Il n'y a que, le Champagne de l'Aube ou le champagne saisonné ou le Champagne de Château-Thierry souffrent d'une réputation un peu désastreuse par rapport au Rémois, on va dire, à la montagne de Reims. De quelque chose qui n'est pas justifié, mais dire c'est encore très présent qu'on est... Par exemple, à Reims, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Le fait que ce soit un champagne de l'Aube ou de Cézanne, c'est déjà, ils ne veulent pas en boire. Réellement, non, mais c'est pas une plaisanterie.
Ah, mais c'est vrai que vous êtes champenois rémois, c'est ça? Ça y est, attention, la guerre est lancée.
Bah, on va non, en parler non, maintenant, non, mais déjà, Fleury, vous êtes... Morgane, Fleury, alors vous êtes où, à Fleury?
Donc nous, on est vraiment au sud-sud-sud de la Champagne, dans la Côte des Barres, un petit village qui s'appelle Courteron et qui est vraiment près des sources de la Seine, à 7 km d'Hérissé, qui est connu pour son fameux rosé d'Hérissé. Et si ces régions-là souffrent autant d'une mauvaise réputation, c'est vraiment à tort. C'est une mauvaise compréhension. C'est vrai que c'est méconnu parce que l'histoire de cette région, c'est qu'on a été très, très longtemps des revendeurs de raisins pour les grandes maisons de la Marne qui faisaient leur belle cuvée avec nos raisins. Il ne faut pas se gêner de le dire puisque c'est vrai. Et surtout, si je vous disais que mon grand-père, en 1929, a commencé à en champagniser, ça correspondait à la dernière crise financière où les Rémois et grandes maisons de la Marne n'avaient plus besoin de nos raisins puisqu'ils n'arrivaient plus à vendre leur champagne. Donc, mon grand-père a rebondi, comme quoi les crises, parfois, ont du bon. Et on a commencé à champagniser à cette période-là. Et à l'heure actuelle, moi, je connais d'année en année des jeunes vignerons qui s'essayent à faire leur propre champagne et donnent un peu moins de raisins aux grandes maisons de la Marne, d'où cette inflation du prix au kilo aussi, parce que la demande reste toujours forte. Et aussi, c'est sans doute pour ça qu'on va agrandir la surface d'appellation.
Une autre spécificité champenoise qu'on peut expliquer, c'est justement cette idée, cette histoire du prix au kilo et la façon dont ça marche avec le négoce champenois, en fait. Moi, c'est pas moi qui vais expliquer, je le ferai très mal, mais...
Alors, on pourra revenir sur des notions de base, sur les cépages vraiment fondamentaux du champenois, hein, peut-être.
Alors, on en connaît très, très facilement, on peut toujours en mentionner trois, qui sont Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier. En réalité, il en existe 6. D'ailleurs, tous les pinots sont tolérés, que ce soit le Pinot Gris, le Pinot Blanc. Mais il y a également le petit mélier et l'arbane qu'on cultive, qui sont des cépages qui font totalement partie de l'appellation champagne, qui ont été un petit peu oubliés, mais il existe notamment le champagne moutard qui est dans l'Aube, qui s'est amusé à recréer une cuvée avec les 7 cépages.
D'accord. Donc le champagne, c'est principalement de l'assemblage, sauf, tu disais, Julien, qu'on pouvait faire du 100% meunier aujourd'hui ou quelque chose comme ça.
En fait, il n'y a rien interdit en champagne de faire du 100%. Alors, moi, je connais, oui, en Meunier, en Chardonnay, en Pinot, il n'y a pas de problème, il y a des cuvées en 100%. Après, sur les autres cépages, je connais pas de cuvées en 100%, ça me dit rien du tout, sur l'arbane, ce genre de choses.
Sur ces cépages-là, ils existent en tellement faible quantité, je ne pense pas qu'ils soient intéressants tout seuls. De même que le Pinot Blanc, je sais que chez nous, on l'assemble, parce qu'à lui tout seul, il est quand même un petit peu plat. Non, il existe chez nous, on a une cuvée en 100% Pinot Noir, donc ça se voit de plus en plus, des monocépages. On a souvent tendance à faire confusion en assemblage, à parler assemblage de cépages, mais il y a l'assemblage surtout de plusieurs années. C'est ça, entre guillemets, le talent de la champagne, c'est d'assembler plusieurs années ensemble pour faire avec un vin de réserve de plus ou moins vieux, ou même en soléra, comme fait Célos. Je crois que c'est ça, un système de soléra avec toujours un vieux vin. Et là, on est dans une autre façon de parler d'assemblage. Ce n'est plus les cépages qu'on assemble. D'ailleurs, souvent, c'est des monoparcelles qui peuvent être qu'en monocépage. Et voilà.
Tu veux rajouter quelque chose, Julien?
Non, je crois que c'est clair. Oui. Donc le champagne, c'est fait avec des vins de réserve. En fait, c'est le principe, ce qui le différencie. Après, il y a des millésimes. C'est-à-dire on juge, selon moi, mais je crois que c'est l'idée champenoise. On juge une maison, en tout cas son savoir-faire, sur son brut premier. Parce que c'est là qu'on peut juger sa capacité justement à assembler, à gérer. Et en fait, il y a quelque chose qui est très différent entre régions, c'est-à-dire que pour beaucoup de maisons, par exemple, il faut une régularité. Avec les millésimes, ce qui n'est pas le plus simple, il faut qu'il y ait un goût maison, en fait, par exemple, sur les maisons de champagne. Et donc ça tient à l'assemblage. Ça tient aussi au dosage. Après, il y a des maisons qui dosent plus ou moins. On peut peut-être expliquer ce que c'est que le dosage. Je ne ferai pas bien, mais...
Alors, Morgane, le dosage?
Le dosage, quand on lit sur une bouteille qu'il est brut, c'est qu'il est dosé de façon brute, c'est entre 5 et 14 grammes. Bref, 5 et 16 grammes. Et quand on voit un demi-sec, c'est qu'il est plus dosé. Le dosage, ça se passe, c'est la dernière étape de la champenoisation. C'est après, ça s'appelle le dégorgement. Et c'est là où on choisira d'ajouter plus ou moins de liqueur d'expédition, mélangé avec du vin de réserve. Et chacun, justement, a sa recette de liqueur d'expédition. Ou alors, ne mettre que du vin de réserve, auquel cas, on fera un brut zéro dosage. Ce qui est très en vogue en ce moment. C'est une curiosité. Moi, j'ai envie de dire que si on a inventé à une période le dosage, ça avait sans doute une raison. Après, les mœurs changent. Autrefois, nos grands-parents buvaient plutôt du demi-sec. C'est vrai que maintenant, je pense qu'il faut admettre que nos générations sont plus flattées, en tout cas les amateurs, par un brut zéro, parce qu'ils vont avoir la vivacité. Et puis peut-être avec le réchauffement climatique, on a besoin de moins doser. Je ne sais pas.
Et c'est un grand domaine, Fleury, en termes d'hectares, c'est...
Alors, le champagne Fleury, c'est 15 hectares en nom propre. Mais la petite histoire, c'est quand mon père a commencé à faire de la biodynamie, il y avait donc deux champenois, deux vignerons dans notre village qui, autrefois, livraient leurs raisins, ont voulu faire de la biodynamie. Donc, mon père leur a dit, moi, je vous suis, je vous rachète vos raisins. Donc, on travaille avec trois collègues, 30 hectares, ce qui nous a amené, nous, à quand même doubler notre production, de passer de 100 000 bouteilles à 200 000 bouteilles par an. Donc, voilà, fallait suivre après, trouver les marchés. Mon père a fait un pari sur l'avenir qui, aujourd'hui, est un beau pari puisqu'on n'a pas coulé de loin. Et je pense que la biodynamie et les vins bio ont plutôt le vent en poupe. Enfin, une reconnaissance en France. Ça a été long à venir. Mais je trouve qu'on parle beaucoup de bio en ce moment et c'est tant mieux. Après, j'espère qu'il y a des vrais gens derrière et que des vrais vignerons et qu'on ne va pas... détourner à des mauvais fins tout ce qu'on peut entendre par biodynamie, naturelle, voilà.
En Champagne, la biodynamie, ça reste quand même marginal. Faut pas non plus... c'est, par rapport au nombre d'exploitants, c'est, je ne sais pas combien ça fait, ça fait pas 1%, c'est vraiment infime pour le coup.
Même à peu près 130 hectares de recensés en certifié AB, et sur 33 000, donc c'est vrai que ça reste vraiment infime. Après, voilà, il faut savoir que des grandes maisons comme Rodrère s'y essayent, entre guillemets, puisqu'ils ont des parcelles en essai raisonnés, agriculture bio, biodynamie, avec un intérêt du chef de culture, tout simplement.
Parce que chez Krug, ils s'y étaient essayés, ils ont arrêté. Krug avait fait des essais sur des parcelles, et en fait, ça ne cadrait pas avec le goût Krug, en fait, ce qu'avait dit le chef de cave, mais... Donc, il y a une, en fait, là, pour le coup, sur les maisons, c'est pas du tout dans la culture champenoise. Donc, quand les maisons commencent à s'intéresser au bio, au biodynamie, on peut carrément presque plus s'inquiéter qu'autre chose, pour moi. Mais...
Par exemple, un champagne comme Ruinard, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Oh, je pense qu'il a quand même une belle image dans le monde de la champagne. Après, moi, j'ai une mémoire courte, j'aime bien regoûter les choses. Il y a longtemps que j'ai pas bu du Ruinard, donc voilà. Je pense qu'il faut surtout s'intéresser au jour d'aujourd'hui, au travail des sols. Et si on va observer nos vignes, on va dire, travailler depuis 20 ans, labourer, composter, tout ce qu'on veut, on voit une vie, à l'œil nu, on voit une vie microbienne. Alors que si on regarde nos voisins qui travaillent chimiquement, leur sol, c'est du béton. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et la petite anecdote, depuis que je suis ici, j'ai un jeune homme qui venait d'arriver dans une maison de champagne. Ça faisait 3 mois et 25 ans à peine. Il arrivait ici en me disant « Ah, vous cherchez pas une place, je voudrais travailler dans le bio, parce que là, quand on m'envoie passer toutes les cochonneries sur les vignes et que je vois que c'est déjà le désert, il était affolé, ce jeune homme, et ça m'a beaucoup touchée, parce que je me suis dit, il a eu tout d'un coup un déclic en se disant « Mince, si je travaille la terre, je vais peut-être pas obligé de mettre des trucs où il y a des têtes de mort sur les bidons, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. »
Non, mais parce que même les grosses maisons, il y a eu beaucoup de dégâts donc en Champagne, parce qu'on prend une maison, des gens qui inondent avec des millions de bouteilles le monde entier, comme Pommery, on a le droit de se demander ce qu'ils mettent comme pour tenir talent.
Le consommateur a le droit de se demander, effectivement. Après, l'appellation Champagne a tiré et tire toujours vers le haut l'image de la France, parce que c'est vrai que c'est des vignerons qui se sont vite exportés, qui ont protégé un nom. Mon père a toujours un grand respect pour les grandes maisons, voilà, le CIVC qui a fait un très beau travail dans le passé, en tout cas. Après, le travail des sols, c'est vrai que c'est assez catastrophique. Claude Bourguignon, que vous connaissez peut-être, vous ici, qui est un chercheur à l'INRA et qui fait surtout au jour d'aujourd'hui des recherches sur la vie dans les sols. Quand il est allé en Champagne il y a quelques années, il a dit « Mais plus jamais je boirai une goutte de champagne. Les sols sont si pauvres que dans le désert du Sahara. Il n'y a plus rien. »
C'est un peu moins. Moi, j'ai une révulsion pour le... quasi-révulsion pour le champagne. Effectivement, je peux tolérer des champagnes bio. Je les découvre avec grand plaisir aujourd'hui, comme Fleury, comme Drapier, comme des gens comme ça.
Excusez-moi, justement. Alors là, j'interviens parce que, justement, compte tenu de la confusion en ce moment, tout le monde devient bio. Et Drapier, il fait une cuvée sans soufre, ce qui n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il ne travaille pas ses sols.
D'accord, nuance, tu as bien raison.
Sur une approche de la vinification.
Je connais vraiment de loin parce que justement, j'ai une telle révolution pour les champagnes que pour moi, ça revêt un caractère soit contraint, vernissage à la gomme, etc., soit vraiment de plaisir. Et ça, vraiment, là, en goûtant tes champagnes, tu vois. Mais j'ai abandonné le champagne, je préfère un bon Vouvray naturel plutôt que de m'emmerder avec un champagne. Quoi.
C'est justement un Fleury, le Clapard, c'est l'os. Enfin, j'en cite pas tout le monde. Mais...
Vous êtes champenois, moi je ne suis pas champenois.
Mais je revenais sur le traitement des sols en champagne. Si vous voir, c'est que c'était une catastrophe, comme on a pu le voir, dans aucun autre vignoble français. C'est-à-dire que c'est là où on a mis des résidus d'hôpitaux, des seringues, des poches de sang, des sacs de plastique. Il faut voir à un moment ce qu'était la champagne dans les années 80. C'est-à-dire que vous passiez dans les vignes, c'est absolument... Mais c'est un fait que c'est même dangereux. C'est-à-dire que les types se blessaient en faisant les vendanges.
Qu'il y a des... Pourquoi des poches de sang ?
Parce que c'était les résidus hospitaliers qu'on mettait comme fumure. Ouais. Et les sacs de plastique. Moi, je me souviens dans les années 80, pas chez Fleury, évidemment, mais je me souviens dans les années 80, la champagne, ça ressemblait à un dépotoir, réellement, les vignes. Bonsoir.
Donc on vient de déboucher une bouteille.
C'est ça. Parce que,
alors,
c'est bien beau de parler, mais il faut goûter. C'est
la tout à fait, tout à fait.
La publicité, c'est de faire goûter notre champagne, vu qu'on n'a pas les capacités des VMH de faire des grands panneaux publicitaires, ni d'acheter des emplacements dans des restaurants. On prend notre bâton de pèlerin et on va faire goûter notre champagne sur les bonnes tables ou de par le monde.
Alors qu'allons-nous boire, Morgane ?
Alors là, c'est notre premier millésimé en biodynamie. C'est un millésimé 95 qu'on commercialise seulement maintenant parce qu'en fait, il a dormi 12 ans en cave. Il y avait beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur. Donc, il fallait attendre. Et on a jugé que c'était maintenant le moment, entre guillemets, optimum, puisque je pense qu'il a quand même un potentiel de 10 ans de garde encore, ce champagne. Donc, 95, qu'en plus, on s'est amusé à décliner en 3 dosages. Ça tombe bien parce que c'est la polémique des dosages en ce moment. Donc là, on le fait en extra brut. Brut et doux, c'est un dosage à 3,5 g pour l'extra brut. Brut, là, on est à 14. Donc, c'est le brut qu'on va goûter. Et le doux, on s'est carrément amusé à pousser un dosage jusqu'à 52 g, avec une belle acidité de fin de bouche. Donc, il n'y a pas de souci.
D'accord, bah on sert ça. Hein, donc
allez, on y va.
Des grammes, en fait, c'est déjà...
Bienvenue, Marco.
C'est quoi ce dont elle parlait ? En fait,
J'ai plus de téléphone.
C'est le niveau de dosage de vin de réserve, enfin pas de vin de réserve, de liqueur d'expédition que tu mets dedans en fait. Et jusqu'à 0, je crois que c'est de 0 à 6, c'est l'extra brut, c'est ça ? Mm-hmm. C'est de 0 à 6 et ensuite tu passes de catégorie, c'est ce qui détermine ce soit le brut ou doux. Alors par contre, à plus de 50, c'est énorme, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est même plus du demi-sec, c'est du doux vraiment là pour le coup. C'est-à-dire que c'est un champagne, on dira, au goût russe. C'est un champagne qui était apprécié à la cour de Russie, en fait.
Russe, ou comme disait hier Beaufort, les Japonais adorent leur demi-sec aussi. Les Italiens, ils aiment bien les demi-secs aussi. L'histoire du dosage est assez compliquée, parce que je discutais avec Marie-Louise Bagnouls, qui s'occupe de la vigna en Espagne, et elle me disait que voilà, la tendance lui a fait acheter beaucoup, beaucoup d'extra brut, et qu'en fait, les consommateurs n'aimaient pas. Ils revenaient carrément avec... les bouteilles, parce que faut pas se leurrer, on aime bien la petite douceur des fois aussi de fin de bouche, on aime bien le sucre, on aime bien le chocolat, et pourquoi pas, la Champagne est quand même une des régions les plus septentrionales de tous les vignobles français. Donc beaucoup d'acidité, beaucoup de difficultés à travailler la biodynamie, parce que fort taux d'humidité, beaucoup de pluie, d'attaques de mildiou. On va déguster et trinquer.
Attends, je remets ça dans la boîte, je fais une nouvelle pause. Morgane, alors
ça a été dégorgé il y a 6 mois à peu près.
Tu disais sur le...
Sur les cépages ?
Oui.
Bah, déjà, le domaine Fleury et la région où on est, c'est quand même sur des terroirs argilo-calcaires. On n'est pas du tout sur la craie qu'on peut avoir autour de Reims et d'Épernay. Et sur qui méridien. Et donc, on travaille à 80% le pinot noir. Là, vous avez 80% de pinot noir dans cette bouteille et 20% de chardonnay. Et on fait, en fait, tous nos millésimés un vieillissement sous liège et agrafe, comme on faisait autrefois, comme on refait la maison Bollinger à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le vin est en contact pendant 12 ans avec un bouchon de liège. Sur les cuvées traditionnelles, c'est une capsule et le liège intervient seulement en dégorgement, en fait. Donc, ce n'est pas si simple que ça, à faire du champagne, quand même. Contrairement...
Je peux peut-être parler deux minutes du dégorgement, parce que je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'assez vide. Hein. Alors ça, moi, je l'expliquerai très très mal, le dégorgement. Donc faut lui demander, parce que non, demande-lui le dégorgement.
Le Chin.
Allez, Chin.
Salute.
Salut.
Et voilà.
Merci.
Chin.
Et que la fête commence.
Donc le dégorgement. Non,
je... Alors le dégorgement. Qu'est-ce que c'est le dégorgement alors, Morgane ?
En fait, c'est retirer les petits dépôts qui sont les lits, en fait, les fins de lit de vin, qui se sont accumulés dans le bas de la bouteille qu'on met ensuite dans le goulot de la bouteille et par un procédé de congélation, un petit glaçon va expulser, avec la pression, on va sortir un peu donc, du liquide, mais surtout ce petit dépôt qui sera pris en glace. Et après, on mettra cette fameuse liqueur d'expédition. C'est ce qu'on appelle le dégorgement, qu'on peut faire à la volée. Autrefois, on le faisait à la volée. Et si on veut ne pas du tout doser, hop. Mais...
Que l'on a après des bouteilles, effectivement, et été en inclinaison.
Sur pupitre ou maintenant sur des gyropalettes que notre cher œnologue Georges Hardy a inventé. Mérite d'inventer ces gyropalettes qui ont quand même permis de gagner beaucoup de place dans les caves, même si les pupitres... Et par contre, de faire perdre une profession, mais bon. Il y a bien pire maintenant de tout ce qu'on retire comme métier. Je pense que le travail de vigneron, de manière générale, c'est quand même un des métiers les plus durs, le travail de la terre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça et qui le font bien.
Mais alors, à Fleury, tu m'as dit que vous attaquiez à la Chine bientôt, non ?
Je pense que c'est toujours intéressant d'aller voir ces marchés-là. Il faut savoir que 2008, c'est quand même plus 38% des ventes. Sur 2008, alors qu'il y a des pays qui baissent, là, c'est quand même en pleine expansion, les ventes de champagne. Et pourquoi pas leur offrir un bon champagne tout de suite, que ce ne soit pas que les grandes marques qui soient là-bas ou qui sont déjà là-bas. Ouais. Ça, ce serait plutôt sympathique pour les Chinois de les éduquer tout de suite bien aux bonnes choses, au vin. Parce que c'est quand même avant tout un vin, le champagne.
Et vous êtes combien au domaine ?
En fait, c'est quand même un domaine familial, mais avec plus de 10 employés à l'année. Et puis toutes les périodes de saison où on prend quelques personnels en plus. Du fait qu'on champagnise, en fait, pour les deux autres collègues, ils récupèrent juste leurs bouteilles pour les commercialiser. Tout est supporté chez Fleury. Et dans les petites recherches qu'a fait mon père, dans son côté passionné, il a aussi réussi à sélectionner ses propres levures pour la prise de mousse, donc la deuxième fermentation, sur notre terroir. Ça a été un travail de 10 années de recherche, mais aujourd'hui, elles sont séchées en collaboration avec l'Institut œnologique. Et ça s'appelle Viti Levure Quartz. Et elles sont même commercialisées pour plein d'autres maisons de champagne et de par le monde, au Chili, parce qu'elles s'avèrent être de qualité. La reprise en fermentation part bien et la qualité de la bulle est là. Et ça vient de Courteron, dans l'Aube.
Et une question qui se pose beaucoup, notamment avec les vignerons, lorsqu'on parle avec la capillarité des sols, lorsqu'on parle de travail en biodynamie, certains sont très perplexes en disant qu'il y a une capillarité telle, qu'il y a un voisinage tellement polluant que... c'est un îlot pur, peut-être improbable. Bon, moi, j'ai tendance à croire le contraire, puisque, effectivement, bon, si on se retrouve sur un coteau et qu'on a effectivement en haut un type qui pollue et qu'en bas, vous voulez faire de la biodynamie, ça semble plus difficile. Mais quand même, il y a des situations topologiques qui s'y prêtent. Donc, qu'est-ce que tu en penses, là, sur ce point, par rapport aux sceptiques ?
Je pense que ça, c'est dans la vie. Hein. Dans la vie, il y a toujours des gens sceptiques. Comme ici, rue Saint-Denis, il y a plein de gens qui me disent que ça ne va jamais être la rue tendance de Paris. Moi, j'y crois quand même. Mais dans les villes, c'est sûr qu'on est un petit peu tributaire de ses voisins. Mais je pense qu'il faut commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières années sont difficiles parce que la vigne, elle met quand même tout un temps à se réadapter à une autre forme de nourriture, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides des jeunes qui s'installent en biodynamie directe à côté de collègues en chimique. Ça risque d'être un peu compliqué au début, en tout cas. Ou alors, ça va leur demander une grande, grande vigilance.
Ce que disait Patrick, avec qui on a fait des entretiens là, pour le prochain numéro, sur la biodynamie, justement, bon, il dit, mais ça prend du temps, beaucoup de patience, il faut beaucoup de patience, il y a beaucoup de techniques qui sont viables. Et là, il y a un petit incident technique de type, la pile, je pense, attends, on fait pause ? Ouais, pause. Donc, une anecdote, tu parlais d'une anecdote.
Non, pas une anecdote. Cette bouteille, je ne sais pas si vous avez vu, elle a quand même un petit logo jaune qui est une médaille. Donc, je suis allée à Londres à International Wine Challenge, qui est un concours très anglophone sur les vins. Et ils ont décerné pour la première fois un prix pour l'agriculture raisonnée, l'agriculture bio et biodynamie. Donc Champagne Fleury, ça fait 2 années de suite qu'on l'a pour la biodynamie, pour une récompense du travail en biodynamie. Et en plus, on a eu sur le 95 en brut la médaille d'or. Voilà, pour la petite anecdote.
Bien. Parce qu'en général, on voit dans le commerce, on a l'impression que rares sont les bouteilles qui ne sont pas couronnées par des prix, qu'il y a une sorte d'olympisme permanent où on couronne les vins, hein, tu vois, médaille d'or. Donc ça a peut-être une valeur un peu plus fiable, non, en champagne ?
Bah, je pense que c'est dans un... bon, déjà pour mon père, pour nous, c'est quand même assez flatteur. Ça veut dire qu'on est reconnu par la profession. Parce qu'il faut savoir que la champagne, il y a 15 000 marques de champagne. Donc quand on sort un petit peu du lot et qu'on peut communiquer, ça aide quand même. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de concours de vin, comme il y a beaucoup trop de prix littéraires. Comme, voilà. Et qu'après, du coup, ça fait un peu tout le temps mettre des médailles. Mais voilà, je sais que mon père, il est assez fier quand il a quelque chose pour une de ses cuvées, ce qui est normal aussi, quoi, je pense.
Mais il y a 15 000 marques de champagne. 15 000 marques de champagne. Alors qu'on en connaît peut-être que consommateur, plus répandu, on connaît peut-être tout au plus 50 à 100, quoi. Donc, c'est énorme.
Bah oui, parce qu'ils s'en créent. Je sais que les grands groupes, quand ils ont une difficulté de production, ils retrouvent un nouveau look, un nouveau packaging. Ils n'hésitent pas à recréer un nom, une marque. C'est un petit peu le problème de la champagne. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément derrière un nom de champagne, on n'a pas forcément un vigneron. C'est assez difficile de se rapprocher directement.
Champenois qui se pose évidemment pas chez Fleury, c'est-à-dire que les gens mettent leurs raisins à la copée, c'est-à-dire c'est vinifié et après, c'est-à-dire c'est la seule région de France où on a le droit de vinifier sous son nom le champagne de la coopérative. Ouais. Donc après c'est sur les lettres qui sont notées en bas, CRM, j'ai plus récoltant manipulant, récoltant manipulateur, il y a coopérateur. Ouais, négociant et après coopératif.
Négociant manipulant.
Ouais. Et c'est-à-dire que quand vous achetez du champagne sous le nom de quelqu'un, il y a quand même une forte chance dans pas mal de coins de champagne que ça provienne de la copée. Hein. Non, ça se passe pas pour vous, donc, mais c'est pour expliquer.
Oui et non, parce qu'en fait, nous, du fait de notre achat de raisin en biodynamie, nos deux collègues, on se retrouve avec le fameux NM en bas de notre bouteille qui nous fait aussi un peu tort. Déjà, on est de l'aube, ça nous fait du tort.
NM, dit-il.
Négociant manipulant, donc.
Parce qu'ils n'ont pas tout le raisin, on n'a pas du domaine, en fait.
La moitié de l'achat relative à l'extérieur.
Voilà.
C'est une petite coopérative.
Une micro-coopérative de bio. Mais je pense que, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'aube qui sont en train de se convertir à la bio, à l'agriculture biodynamique, il y en a pas mal qui vont sortir. J'étais à une très belle dégustation hier de ces jeunes vignerons. Et ce qui serait peut-être intelligent, parce qu'il y a une forte demande... même dans la grande distribution, d'avoir de faire une coopérative et de vinifier tous ensemble tous ces vignerons-là. Comme ça, ça permettrait de distribuer certains marchés et de garder un petit peu tout simplement sous son nom. Ça, c'est des choses. Hop là ! Attention ! À réfléchir, ouais.
Là, ça a repris là. Alors là, nous buvons un champagne rosé. Alors quel
rosé de saignée, comme c'est marqué sur la boutique, ce qui veut, comme sur la bouteille, pardon. C'est ce qui fait la différence avec nombre de champagnes en rosé, puisqu'on est moins de 10%, voire plutôt 5% dans toute la champagne à faire de la saignée. C'est-à-dire un rosé de macération et non pas d'assemblage, parce que c'est la seule appellation de France où on a le droit d'assembler rouge et blanc pour faire du rosé. Nous, c'est une macération courte qu'on fait, donc en cuve, de 24 heures à peine, juste pour extraire la couleur du pinot noir qui se trouve dans la peau, dans le jus. Donc, d'où cette couleur assez intense qui varie un petit peu selon les années. Là, c'est un 2006 qu'on goûte, donc en 100% pinot noir. Et avec cette couleur bien rosé vif. Et
la macération donc avec le raisin entier. Hein.
Exactement. Simplement éraflé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la rafle avec. Et ça reste en cuve. Et après, c'est un rosé de presse, quoi, en fait, plus que de macération. Macération puis presse.
Donc ça, c'est rare.
C'est moins de 5% de tous les champagnes rosés qu'on peut trouver. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que Notre procédé a été reconnu par deux fois, c'est 2004 et 2006, où on s'est amusé à faire à nouveau un concours, c'est le Mondial du Rosé, et devant 800 rosés à l'aveugle, il a été par deux fois, donc 2004 et 2006, médaille d'or devant 800 rosés. Alan, Alan.
800,
c'est sympa.
Ouais. Julien, si tu...
Non, je n'avais rien de plus à ajouter, ce fut parfait. Par une nuance, c'est-à-dire que ce qui était une réglementation spécifique à la Champagne, c'est en train de bouger. Alors, je ne sais pas si c'est passé ou non, mais c'est en train de passer, c'est-à-dire que la communauté européenne est en train d'accepter réglementairement qu'on fasse du vin rosé en mélangeant le blanc et le rouge avec des vins tranquilles. Et je crois que c'est sur toute la communauté européenne, puisque les règles européennes...
Est-ce que ça va être valable pour le champagne, ça?
Le champagne, c'est déjà valable. C'est la seule exception... Alors, je ne dirais pas européenne, parce que je pense qu'en Italie, je crois que c'est autorisé aussi, mais j'en jurerais pas, il me semble. Non, ça va être autorisé pour les vins tranquilles, ce qui fait que ça signe à peu près la disparition de tous les rosés de saignée du sud. Parce que ça va être plus simple de faire. Enfin, c'est toujours plus simple de faire un assemblage que justement qu'une saignée.
C'est sûr que moi, j'ai une amie qui est fan de rosé, qui est venue faire les vendanges un jour chez nous et qui a vu le process pour faire notre rosé de saignée et de macération, donc où on trie les raisins... qu'il soit le plus sain possible, bien sûr. Et quand elle a vu ça, elle dit « Ah, ben, je comprends pourquoi c'est un peu plus cher que le champagne brut, compte tenu du procédé qui est quand même plus astreignant. »
Qui est plus risqué, peut-être, non ?
Risqué, non. C'est simplement, il ne faut pas oublier le raisin en cul, sinon on aura un rosé beaucoup trop marqué, rouge. Mais non, c'est l'expression du fruit qu'on a, en fait. C'est ça qui est assez génial, c'est qu'on a l'impression de croquer dans le raisin, je trouve, par rapport au blanc. Là, on est encore plus sur le fruit.
Si tu l'oublies, ça passe en côte au champagne. On a oublié de parler de ça, c'est-à-dire, je ne sais pas si la Maison Fleury le fait, mais il y a des vins tranquilles en Champagne. Donc, ça s'appelle encore Coteaux Champenois, je ne sais plus. Ouais, ça s'appelle donc, il y a des Coteaux Champenois rouges et blancs. Donc, alors, c'est toujours les mêmes, en gros, le même cépagement. C'est-à-dire, pour le rouge du Pinot, c'est plutôt du Pinot Noir, je crois qu'il y a du Meunier du côté de, je ne sais plus, alors ça, j'ai plus ça en tête. Et pour le blanc, du Chardonnay. Et si j'ai l'occasion, si je repasse chez mes parents, j'amènerai un Gosset 52 en coteau champenois tranquille qu'on boira. Et la dernière fois que je l'ai amené, ça a cassé la gueule. Je l'ai amené au milieu de Grand Bourgogne et ça n'a pas cassé la gueule, mais c'était au niveau. C'est très beau.
Mais va voir tes parents, hein, c'est bien d'aller voir ses parents.
J'allais voir mes parents, puis...
Il revient.
Il faut que je revienne avec des bouteilles. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais voir mes parents, je vide une partie de la cave et que j'ai pratiquement une cave vide maintenant. J'ai tendance, depuis que quand j'étais jeune, j'avais tendance à acheter des bouteilles et en boire moins. Et en vieillissant, avec l'expérience aidant, je pense à faire le contraire.
Bah, ce serait une belle conclusion, non ? Ou quelque chose à rajouter, peut-être ?
Non, que plein de vignerons continuent à bien travailler, parce qu'on parle de crise, on parle de crise. Je pense que la place du vin aujourd'hui est plutôt la place du vin plaisir, puisqu'on nous interdit de plus en plus de boire, mais... que le consommateur aussi maintenant est de plus en plus éduqué. Et c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, qu'il ne faut pas faire un amalgame entre bio, biodynamie, tout ça. L'important quand même, c'est que le vin soit bon avant tout et que la France reste une belle image des vins de par le monde. Et donc que tout le monde travaille le mieux possible, ça, ce serait magnifique.
Et puis ça invente sa vie, ça frémit d'un peu partout. C'est ça qui est passionnant quand même. C'est vraiment une... On voit très bien qu'il n'y a pas de quoi se lamenter parce qu'il y a vraiment des alternatives et il y a vraiment le palais aujourd'hui s'étoile de mille saveurs.
On veut bien quelques aides du gouvernement parce que là, on est quand même drôlement à la traîne. Faut savoir quand même que le vignoble en bio, même si on en parle beaucoup en ce moment dans la presse et partout, ça représente à peine 10% du vignoble français. Donc il y a quand même encore du boulot.
Mais il y a aussi beaucoup de... Ça dépend aussi beaucoup de conseils régionaux, généraux, conseils régionaux. Au niveau de remembrement, par exemple, de vieilles parcelles, de choses comme ça. J'ai un problème avec le téléphone.
Je t'en prie.
Ce que tu veux dire sur les vieilles parcelles et le remembrement. Allô ?
Voilà, on va laisser Gilles Liovan à ses interlocuteurs au téléphone. Donc, il s'agissait d'un entretien avec Morgane Fleury. On écoute une pause musicale et on reparle de tout ça ensuite. Parce que là, j'ai soif. Bon, donc il s'agit de Jacques de Boncart, Ernest un coup de blanc. On n'a pas trouvé de morceaux sur le champagne, et comme le champagne est un vin blanc, voilà, normalement ça colle.
Un jour, pour boire un coup dans un bistrot, faudra donner ton numéro, matricule, tout le tremblement, Ernest un coup de blanc. Sinon, ben sinon tu boiras pas. Encore heureux si tu t'en vas avant qu'on appelle un agent. Ernest, un coup de blanc. Un jour, tu boiras ce qu'on te dira de boire. Il y aura derrière le comptoir un ordinateur tout puissant. Ernest, un coup de blanc. Et si tu lui demandes un verre de vin, il répondra, type sanguin pour lui, un grand verre d'eau des viands. Ernest, un coup de blanc. Un jour, on sera 200 millions de Français, dont chaque immeuble en sous-préfet, on fera plus guère de sentiments. Ernest, un coup de blanc. Un jour, tu seras plus celle que tu veux. Des laboratoires très sérieux devront donner leur consentement. Ernest, un coup de blanc. Un jour au guichet de la gare, tu diras deux allées dinars. On te répondra non, Perpignan. Ernest, un coup de blanc. Vu que à dinars ce sera déjà plein, ce sera donc Perpignan ou rien. Et en janvier, vu l'étalement, Ernest, un coup de blanc. Un jour, ce jour-là, espérons qu'on sera dans notre trou, bien mort, bien froid, et hors du coup depuis longtemps. Ernest, un coup de blanc. Pourtant, et si on était encore là, le temps, ça va plus vite qu'on croit. Double la dose, donne carrément, Ernest, la bouteille de blanc. Je veux tout oublier, le mois, l'année, mon numéro de sécurité, de rue, de classe, d'un régiment, Ernest. Tu m'entends, Ernest, oublier le temps qui me reste, si je suis au nord, à l'ouest, à l'est. Oublier ce que je te dois, Ernest, pour tous ces coups de blanc.
Il s'agissait de Jacques de Broncaert, Ernest, un coup de blanc. On va discuter ou en parler, il nous reste un peu de temps, de Invino Poésis et Veritas, le salon, le cinquième du nom, et de la revue, le pendant du salon.
Oui, oui, tu veux vraiment que j'en parle alors?
Bah oui, voilà, ah bah, je faisais ta publicité.
On va faire un effort. Voilà, non, bah, cette canicule m'assomme, tu vois, d'aujourd'hui, c'est affreux. Attends. Alors, d'abord Invino, puisqu'il s'agit donc de la cinquième édition, donc le dimanche 19 avril. C'est un cycle qui s'appelle La créativité, un enjeu de transformation sociale. Et dans ce cycle-là, c'est la cinquième édition de notre manifestation annuelle, Invino Poesis et Veritas, avec 11 vignerons. Donc, nous aurons Jean-Pierre Aubineau, Janière, Coteau-du-Loir, Béatrice et Michel Auger en Touraine, Patrick Desplat en domaine des Griottes, Anjou, François Blanchard en Touraine, Gilles et Catherine Verger, Viré-Clessé, Bourgogne, Renaud Guettier, Coteau-du-Loir, Jérôme Sorini en Anjou, Courtois, père ou fils en Sologne, Pierre Bauger en Auvergne, Jean-Christophe Garnier en Anjou, Anne-Marie Lavesse en Minervois. Et donc l'originalité de cette manifestation, c'est que c'est à la fois une dégustation où les gens peuvent venir déguster toute la journée et aussi avec des moments de présentation. C'est une manifestation également artistique. Donc avec deux volets spécifiques, des improvisations œno-musicales. Donc là, c'est-à-dire que des musiciens prennent une cuvée qui sera tirée au sort et vont essayer d'en tirer des analogies musicales. Et là, on aura cette année plusieurs musiciens qui se prêteront à cette expérience. C'est Kentaro Suzuki à la contrebasse, mais nous aurons également Lucie Laric qui sera au violon avec un troisième compère qui n'est pas mentionné sur le carton et dont j'ai oublié le nom. Donc, il m'excuse.
C'est l'invité surprise.
Voilà, l'invité surprise.
Voilà. Alors souvent, dans les improvisations musicales, au début, c'est très calme, les impressions qu'ils ont sur le vin. Puis sur le dernier vin, ça part un peu plus dans tous
les
sens.
Oui, c'est-à-dire ce sont des courtes interventions de 3-4 minutes qui émaillent toute la journée, qui sont faites à des moments un peu opportuns. Et là, on aura certainement 7, 8 ou une dizaine d'interventions courtes dans la journée sur ce registre-là.
Et toi, tu feras des interventions comme les autres?
Moi, je verrai, parce qu'il y aura quand même finalement une grande densité d'interventions, puisque là-dedans, il y aura deux grands moments, donc avec nos amis de Ad Libitum Trio, les improvisades œnographiques. C'est un dispositif de projection cinéma 16 mm in vivo et musique électroacoustique. Comment tisser les liens du vivant avec le champ des expérimentations visuelles et sonores? Avec Christophe Auger de Metamkin et Laure Sainte-Rose est réalisatrice et également restauratrice de films. Voilà, et il y aura deux interventions distinctes. Donc il y aura vers 18h, c'est quatre projecteurs donc en 16 mm avec une première œuvre, poétique de la matière et paysage instable. Et ensuite vers 20h30, fermentation photochimique, émulsion sonore organique, avec là notamment la participation d'un ami de Laure Sainte-Rose et de Christophe Auger, Mathieu Delaunay, qui sera un concert en électroacoustique qui accompagnera la projection.
Par contre, ça s'appelle le cinéma élargi. C'est l'idée d'une projection qui sort du cadre, au sens très large du terme.
Apparemment, il y a une polyphonie. Donc, ils ont tenu, on va voir comment c'est possible, parce qu'ils ont tenu à ce que vraiment avoir une grande proximité avec le public, parce qu'il y a toute la manipulation, donc il y a une sorte de sensualité, quoi, même dans le phénomène de la projection, qui n'est pas simplement un truc qui doit être projeté simplement vers le haut, mais il y a une situation dans le public. Bon, ça, on les découvrira ensemble, justement, le 19. Et par ailleurs, il y a une programmation qui s'est rajoutée. Il y a une exposition.
C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas sur le programme.
Oui, plusieurs choses qui ne sont pas sur le programme. J'ai cité les deux musiciens qui se rajoutent. Et il y aura également une exposition des peintures de Jean-Pierre Robineau. Donc, puisque Jean-Pierre Robineau...
Peintures de Jean-Pierre Robineau qu'on a pu voir à l'atelier
Tampon. Qu'on a pu voir à l'atelier Tampon. Parce que Jean-Pierre est également... Évinon est également peintre. Et un peintre assez intéressant, je veux dire, c'est... Voilà. Et on aura également...
On a un original devant les yeux.
On aura également une série de projections de photographies sur grand écran réalisées par Christina Bertelli autour de la mise en scène de crues de vignerons. Donc, et ce sont certaines photos qui émaillent le journal... Le prochain journal des périphériques consacré au vin vivant.
Parce qu'avant de passer à la revue, on peut préciser que cette année, pour les gens qui sont venus...
Ouais, il faudra donner quand même les indications, là, parce que je n'ai pas donné l'adresse.
Non, mais pour les gens qui seraient venus les années précédentes, là, il y a les deux salles et les jardins.
Deux salles et jardins.
Et est-ce que Marc Fèvre, le chroniqueur de Envino, sera là?
Donc, s'il fait beau, c'est un pur régal, parce qu'on peut à la
il
fois...
Il ne t'entend pas. Alors, Bruno nous demandait si Marc Fèvre, le chroniqueur ô combien émérite de Envino...
Et de la télé Tampon.
Voilà, donc, je veux dire, presque un chroniqueur en permanente ici. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera présent pour les fans? Parce que les gens l'entendent, il y a une voix suave, ils disent mais on aimerait bien le voir en vrai. Est-ce qu'on le verra?
Marc, oui, on le verra tout à fait. Simplement, il organise le même soir un concert à l'atelier Tampon et éventuellement, on en discutera ce soir, savoir si son concert, il ne pourrait pas le faire à la Cité européenne des Recollets, ce qui ferait encore un élément de programmation supplémentaire. Sauf qu'on va voir si techniquement c'est possible.
Tout ça pour 5 euros, mais c'est donné.
Mais parce que les périphériques ont toujours eu cette fibre philanthropique qu'on leur reconnaît.
Voilà, c'est vraiment une entreprise citoyenne, on peut dire le mot.
Voilà, c'est une entreprise citoyenne, mais bien évidemment, c'est une manifestation qui est organisée sur fonds propres. Donc le but, c'est de rentrer dans nos frais, de ne pas perdre d'argent.
Pas d'argent sale.
5 euros, c'est le verre in-house, c'est tout ça, mais c'est éventuellement une... Oui, effectivement, c'est un... Moi, je... voilà, ça vaut la peine. Enfin, je veux dire, par rapport au prix, c'est quand même très, 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 très sympathique.
Ça ferme un peu tôt, mais c'est le seul reproche.
Oui, il faut indiquer 22 heures tout le temps pour des raisons de débordement inévitables. Mais voilà, mais là, de toute manière, après, en plus petit comité, la soirée se poursuit toute la nuit. Donc, mais alors maintenant, oui.
En exergue justement de cette. Je cherche le mot, je ne trouve pas parce que je suis en train de boire. Donc je ne peux pas
cette
me concentrer
manifestation,
sur
cette manifestation.
Alors, j'ai oublié.
Oui, mais j'ai oublié, on n'a pas dû housser. Ça se trouve, les gens pensaient que c'est à Dunkerque. Non, pas du tout. C'est la maison de l'architecture. Donc la Cité européenne des Recollets, maison de l'architecture, dans la salle de la chapelle. Et donc l'adresse, notez bien, c'est 148 rue du Faubourg Saint-Martin. 148 rue du Faubourg Saint-Martin, métro Gare de l'Est.
C'est à la sortie de la Gare de l'Est.
Voilà, donc vous pouvez réserver, puisqu'on a besoin de savoir par rapport au nombre de verres, par rapport à la restauration, puisqu'il y aura le concours aussi du Café A pour la restauration. On a besoin de savoir un petit peu le nombre de personnes. Donc réservez au 01 40 05 05 67, 01 40 05 05 67.
Alors pour les gens que ça intéresse, qui ne seraient jamais venus, on précise que ce n'est pas qu'une dégustation, c'est-à-dire les vins, si les gens, les vins leur plaisent, ils peuvent les acheter.
Ah mais bien sûr, ils peuvent les acheter, tout à fait, oui, oui. Il y a une vente, libre aux particuliers, aux professionnels, donc voilà.
Par rapport à ça, en fin de compte, ça sera le moment où vous allez présenter le dernier numéro de la revue Les Périphériques, qui est un numéro spécial sur le vin naturel.
Tout à fait, donc qui arrive de l'impression en début de semaine. Donc c'est un spécial numéro vin vivant. Alors, beaucoup d'articles, beaucoup de portraits de vignerons, notamment tous les vignerons présents sont dans le numéro. Il y a 15 portraits de vignerons. Hein. Il y aura 11 vignerons à Invino, mais il y a 15 portraits de vignerons dans le numéro des Périphériques, avec à la fois quelque chose, une peinture des vignerons, de leur personnalité, et en même temps un descriptif des domaines et toutes les données utiles pour comprendre un peu leur manière de travailler. Donc c'est l'objet d'un cahier central, ces portraits, et puis il y aura d'autres articles. Il y aura des articles de fond sur la biodynamie, proposition pour une autre viticulture, entretien avec Patrick Desplat, qu'est-ce que le vin naturel par Jean-Pierre Aubineau, vigneron et vigneronne de vin vivant par Christina Bertelli, la renaissance du vin par Barbara Chepanou, extrait d'utilité publique du livre très intéressant d'ailleurs de François Morel, Le vin naturel, qui est véritablement un livre de référence sur la question. Il y aura un article de Maïsef, Le démon de l'aurore, l'ivresse et le développement buvable. L'hommage copyright à Navine par Laure Sainte-Rose.
Il y a un copyright sur le développement buvable.
Le vin de vie par Marc O. Et excès et mesure encore par moi-même. Voilà.
On t'arrête
et
plus.
Donc c'est un numéro assez complet et qui est un numéro à la fois c'est un numéro d'humeur, mais en même temps aussi on a essayé de faire un travail quand même qui soit sérieux quoi, par rapport aux données, par rapport à l'état des connaissances scientifiques et techniques sur le vin naturel et la biodynamie du point de vue à la fois de la culture de la terre et de la vinification.
Justement, sur ce point, tu peux un peu préciser un peu ta contribution personnelle justement sur le numéro qui va sortir. C'est de quel ordre ? On en a parlé un peu, mais...
Dans mon article ?
Oui, le tien.
Mon article, j'ai fait développement du buvable parce que j'essaye de... j'ai beaucoup travaillé sur qu'est-ce que ça veut dire parce que les gens disent « Ah, vin bio !» Je dis non, il y a vin bio, il y a vin naturel. Vin bio, je trouve ça un petit peu disqualificatoire parce que c'est la petite niche commerciale des vins des bobos du 11e, etc. Voilà, les petits vins sympas, c'est pas vrai. Il faut rester à vin vivant, donc il faut prendre prendre en considération la manière dont ces autres vins sont perçus aujourd'hui et comment ils sont qualifiés et comment ces qualifications sont souvent créent plutôt des incompréhensions. Et voilà. Après, j'ai essayé d'écrire beaucoup sur l'ivresse parce qu'on dit en général, voilà, bon, l'ivresse, on en fait peu de cas. On fait beaucoup d'analyses organoleptiques sur le vin. On peut décrire les arômes du vin, mais on fait peu état de l'ivresse et du rapport qualitatif à l'ivresse. En général, on dit il a été saoul ou elle a été saoule. On dit jamais de quelle manière il a été saoul, de quelle manière il a été saoul, qu'est-ce qu'il a bu, mais quelle ivresse me procure tel ou tel vin. C'est complètement différent. Il y avait un Hongrois dans
les... De temps en temps, on décrit comment il a été saoul, ça arrive.
Non, mais on décrit, mais on décrit pas... On pense que c'est une espèce...
On décrit les conséquences.
Voilà, on pense que c'est une espèce de désastre consécutif à l'ingestion de vin. Et puis, on a aussi un rapport un peu prude en France au vin en disant « moi, je bois du vin ». Parce que c'est pour le goût, mais pas pour l'alcool.
Avec modération.
Or, y a toujours un problème. C'est comme c'est comme l'amour sans baise. Je veux dire, le vin et l'ivresse, il y a une espèce de collusion. Il y a une espèce de relation insécable. On ne peut pas distinguer. Alors après, on peut s'interroger. Lui, Marco, a pris une autre régulation sur qu'est-ce que c'est que l'excès d'alcool par rapport, pas l'excès de vin, mais l'excès d'alcool. C'est-à-dire la recherche éperdue de l'alcool, alors que le vin... ce n'est pas une consommation de l'alcool, c'est un nutriment très très spécifique par rapport à notre culture, par rapport à voilà. Donc il fallait aussi réfléchir à ces données-là et pas jouer un peu les saintes nitouches en disant consommer avec modération, mais parler vraiment
bon,
de ces
c'est
problèmes-là.
C'est bon, il y a un truc, je suis d'accord avec toi, consommer avec modération, c'est une phrase insupportable, mais point de vue légal, on l'a dit deux fois, ce qui est pour l'émission est bon.
Très bien.
Légalement, on devait dire deux fois consommer avec modération, c'est fait.
Pour le CSA, c'est très bon. Très bien, très bien.
Eh bien, la semaine prochaine, puisqu'il y aura une émission la semaine prochaine, ce sera une spéciale Invino Poésie et Veritas. Donc là, on parlera plus en avant du salon.
Ouais.
On peut appeler ça un salon, une rencontre, comme tu veux.
Ouais, c'est une rencontre, salon, dégustation, c'est un peu con, comme une rencontre dégustation, manifestation artistique.
Et de la sortie de la revue, on reviendra peut-être un peu en détail là-dessus. On passera peut-être des entretiens avec des vignerons. On aura un invité, oui. On verra.
Et peut-être éventuellement que Jean-Pierre Robineau viendra, mais bon, viendra à cette émission s'il est sur Paris, puisqu'il n'est pas dans ses villes encore.
Et puis on fera une dégustation, parce que là, ça manquait.
Tout à fait. Oui.
Et ben la semaine prochaine, Gilles.
Julien, voilà. Donc la rediffusion de cette émission, c'est mercredi.
Mercredi
prochain, donc à 10h, de 10h à 11h.
Voilà. Bruno, à la semaine prochaine.
Merci Bruno, qui nous accompagne à la technique,
Les sages contrebalancent leurs méfaits et retrouvent ou découvrent les moyens d'assurer la fertilité de notre planète. Eux seuls leur offrent les moyens actuels et vraiment efficaces de résister aux agressions des folies industrielles, agricoles, médicales et commerciales, et de revivre.
Alors, on la vide cette bouteille ?
Avec plaisir, je bois une santé qui nous est chère à tous, la mienne.
La tienne !
À la mort !
Vidons la bouteille, buvons un verre. Rien qu'un verre, mais du bon vin. Le jus de la treille, on le préfère.